France Inter.
It's morning edition from NPR News.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Est.
Un jour dans le monde, c'est un jour dans un monde encore plus chaud.
Avec l'accord, nous sommes maintenant en mesure de limiter la hausse des températures en deçà de 2 degrés, de 1,5 degré même, d'ici la fin du siècle.
Voilà, c'était François Hollande, président de la République, alors le discours de clôture de la COP21 le 12 décembre 2015, à l'époque où peut-être on y croyait encore. Bonsoir Christophe Cassou.
Bonsoir.
Climatologue, directeur de recherche du CNRS au laboratoire de météorologie dynamique à l'École normale supérieure. Vous étiez l'un des auteurs du sixième rapport du GIEC. Le chercheur que vous êtes ne tombe pas de sa chaise, évidemment. Plusieurs scientifiques et experts comme vous avaient déjà alerté plusieurs fois même. Mais disons que c'est désormais officiel puisque 61 scientifiques venus de 17 pays l'écrivent, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré n'est plus un objectif atteignable. Donc il n'y a plus 36 manières de le dire, c'est un échec. Est-ce qu'on est désespérant collectivement, Christophe Cassou ?
On n'est pas à la hauteur. On n'est pas à la hauteur des enjeux et je pense qu'il faut être lucide. Le constat qui a été fait par ce collectif de chercheurs qui mettent à jour de manière régulière les indicateurs climatiques est un rappel à la réalité, un principe de réalité. Aujourd'hui, la quantité de carbone qu'on est autorisé à émettre encore dans l'atmosphère pour limiter le réchauffement climatique est toute petite. Mmh. Ce budget-là, comme on l'appelle, il se réduit. En 3 ans, il sera épuisé. Donc, parce que les émissions de gaz à effet de serre, du CO2, mais aussi des autres gaz à effet de serre, du méthane, du protoxyde d'azote, parce que ces émissions ne baissent pas, aujourd'hui, dès aujourd'hui, même si 1,5 degré n'est pas franchi en tant que tel, l'objectif est inatteignable.
Vous dites 3 ans pour que les gens comprennent bien. Est-ce que ça veut dire que, en gros, dans 3 ans, il faudrait qu'on arrête tout, qu'on soit à zéro émission, qu'il n'y ait plus rien qui sorte pour qu'on puisse atteindre les objectifs que nous nous étions fixés avec beaucoup d'enthousiasme en 2015. Est-ce que c'est ça que ça veut dire ?
Alors, il faut atteindre la neutralité carbone. Cette neutralité carbone, on la définit par le fait qu'aucune molécule de CO2 ne s'accumule dans l'atmosphère. Pourquoi ? Parce que ce réchauffement climatique, il est dû à 90% aux énergies fossiles, 10% à la déforestation, et ce CO2 qui s'accumule quand on brûle ces énergies fossiles. Donc, excusez-moi, j'ai perdu votre question.
Ben non, mais je vous en prie, j'étais en train de vous demander si, en gros, ce que vous nous expliquiez sur les 3 ans, c'était, en gros, il faudrait que tout s'arrête là, dans 3 ans, si on veut atteindre les objectifs qu'on s'était fixés.
Donc, alors, le géophysicien que je suis dit, quand on regarde les faits scientifiques, les faits géophysiques, il nous dit que si on arrête demain, voilà, par un exercice de pensée, parce que c'est pas possible, une inertie sociétale, mais si on arrête demain d'émettre du carbone dans l'atmosphère, dans ce cas, la température globale de la planète, les événements extrêmes, les canicules qu'on est en train de vivre, et les pluies diluviennes, se stabilisent. On ne revient pas en arrière. Le voyage climatique, le changement climatique, c'est un voyage sans retour. Mais par contre, on stabilise. Le niveau de la mer va continuer à augmenter pendant des milliers d'années. Mais sur Terre, on stabilise. Donc ça, c'est un plaidoyer pour l'action, en fait. On n'insiste pas assez sur ce volet-là, parce que ça veut dire que le système climatique, il n'a pas d'inertie. Ça veut dire qu'on est intégralement en capacité d'agir.
Ce que ça veut dire, Christophe Cassou, c'est que, alors oui, on a peut-être raté notre objectif et qu'on n'ira pas là où on voulait aller, dans le temps où on voulait aller, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout arrêter et reprendre une voiture et jeter tous nos papiers par terre. C'est surtout ça que ça veut dire.
Absolument pas. Il faut lutter contre ce qu'on appelle le doomisme, ou le fatalisme, parce que le fatalisme acte des niveaux de réchauffement qui menacent l'habitabilité pour toutes et tous. Donc le seuil de 1,5 degré sera franchi dans quelques années. La cible doit être 1,6, 1,7. Chaque fraction de réchauffement entraîne des événements extrêmes de plus en plus importants, et en particulier a des impacts sur le vivant et la biodiversité.
Vous avez employé ce mot, Christophe Cassou, inertie sociétale. Le fait est, vous l'avez dit, les énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon, et dans une moindre mesure, mais enfin tout de même, la déforestation. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à renoncer à nos modes de vie. Et je ne sais pas si c'est nous qui n'arrivons pas à renoncer à nos modes de vie, évidemment en grande partie, ou si on ne sait pas remplacer des choses que nous faisons, ou si on n'a pas eu assez peur, je n'en sais rien. Mais vous parlez d'inertie sociétale. Le fait est que tant qu'on est toujours dans cette inertie sociétale, on a l'impression qu'on fera du vélo dans le vide, quoi.
Tout à fait. En fait, le changement climatique, donc, c'est un problème politique, un problème social. Et donc, lutter contre le changement climatique, en fait, c'est définir un nouveau contrat social. Et aujourd'hui, les forces sont présentes, des forces contraires sont présentes, des vents contraires sont présents, pour qu'on n'imagine pas ce nouveau contrat social. Donc, il y a un enjeu de communication qui est absolument essentiel pour les scientifiques que nous sommes, pour les journalistes que vous êtes, pour tous, sur l'efficacité des leviers d'action. Parce qu'aujourd'hui, il y a des discours de désinformation sur les solutions qui pourraient être mises en place pour limiter notre empreinte carbone. Et puis un enjeu d'équité aussi. On n'a pas tous la même responsabilité dans le changement climatique. On n'a pas tous les mêmes capacités d'agir non plus. Donc en fait, il faut des discours qui soient différenciés et qu'ils soient ciblés sur les personnes, les communautés, les groupes qui ont cette capacité d'agir. C'est un devoir moral, un devoir éthique.
Est-ce que vous diriez qu'il y a une part aussi de montée de climato-scepticisme, etc., également dans les chiffres que nous voyons sur une année, par exemple, là, effectivement, ils sont particulièrement mauvais, et on a l'impression que ça correspond aussi à une période politique qui n'est pas seulement la nôtre, mais qui est celle des États-Unis, par exemple, qui est celle de certains pays d'Amérique du Sud. Enfin, est-ce que ce climato-sceptique, pour le dire comme ça, explique aussi en lui-même des chiffres qui, là, pour cette année 2024 particulièrement, sont mauvais.
Alors, je pense qu'il faudrait peut-être utiliser un nouveau mot, parce que c'est plus du climato-scepticisme en tant que tel, c'est du climato-obscurantisme ou du climato-bellicisme. Aujourd'hui, on est face à une guerre éclair contre les sciences du climat ou les sciences de la durabilité de manière générale. Ces sciences de la durabilité qui inclut les enjeux de santé.
Guerre éclair, pardon de vous interrompre, ça veut dire que vous avez l'impression de recevoir, c'est comme si vous receviez des salves en ce moment, beaucoup plus régulières, c'est ça l'idée ?
Depuis début 2024, on voit en fait des attaques très fortes, alors sur la communauté des climatologues, bien évidemment, mais elle se traduit par aussi des attaques sur les mesures, les plans qui ont été mis en place pour... essayer donc de respecter cet accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique. Parce que c'est, quand on parle de fraction de degré, derrière, il faut traduire ça en souffrance et en mort. Donc on est dans un moment particulier où les forces de régression sont fortes. Aux États-Unis, en France également. Aujourd'hui, on est en train de détricoter en France l'insatisfaisant. Et ce qui est terrible, c'est que... aujourd'hui, on serait satisfait de l'insatisfaisant. L'insatisfaisant, c'était des mesures qui n'étaient pas à la hauteur pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, et on le voit. Mais on en arrive à être satisfait de cet insatisfaisant. Et cet insatisfaisant, il nous amène vers des niveaux de réchauffement de 3 degrés à l'échelle monde, de 4 degrés à l'échelle France.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut mettre au fond chacun à sa mesure sur le même plan, parce que ça parle de la même chose et ça dit la même chose, la suppression des ZFE chez nous et l'augmentation de la déforestation au Brésil, par exemple. Est-ce qu'au fond, ça parle de la même chose, ça dit la même chose ?
Ça parle de la même chose dans le sens où aujourd'hui, on est rentré dans le dur. Pourquoi ? En fait, communauté climatologue, on attendait ce moment-là. Parce que, après l'accord de Paris, on a eu un moment, les quelques années, jusqu'en 2020, qui étaient des années qui permettaient de définir des objectifs, des cibles de baisse de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À partir de 2020, on rentre dans l'implémentation des mesures. 2020-2022, tout a été mis entre parenthèses à cause du Covid. 2022, on repart. Donc là, on implémente les objectifs, les mesures qu'on avait imaginées pour atteindre ces objectifs. Et donc, en fait, on rentre dans le dur, dans le sens où on attaque des intérêts particuliers, on attaque des privilèges. Et donc, les forces se raidissent. Et aujourd'hui, on voit une porosité très importante entre les lobbies fossiles, les lobbies agrochimiques, et, on va dire, le cadre de la décision, le cadre de la prise de pouvoir, l'accès à la décision. Et ça, c'est très inquiétant.
Et une forme de technosolutionnisme que moi, j'ai découvert en préparant cette émission, j'ai découvert notamment ce qu'on appelle l'overshoot. C'est-à-dire cette idée, visiblement, qui fait son chemin, qui est de dire, on va laisser passer les seuils, de toute façon, c'est pas grave, parce que ça ira mieux après, à grand renfort de technologie. D'où ça sort, l'overshoot ? Comme si, en fait, tout dégât n'était pas irréversible, parce que c'est ça que ça dit aussi.
On montre dans le dernier rapport du GIEC qu'il y a des limites, qu'il y a de l'irréversibilité. En particulier dans nos non-humains, dans le vivant, pour la biodiversité. La biodiversité est en train de s'effondrer. Nous, société humaine, on ne s'adapte pas à un effondrement de la biodiversité, on meurt avec. Et cette biodiversité, elle est très sensible à des seuils de température. Chaque fraction de degré compte pour cette biodiversité. Tout à l'heure, on parlait de température extrême. Pour une forêt, passer de 39 à 40 peut engendrer des conséquences irréversibles.
Mmh. Et c'est pas parce qu'on reviendrait à 39 que subitement on aurait tout effacé, c'est ça que ça veut dire en fait.
Cette approche-là, en fait, minimise les risques, minimise les risques, et en particulier pour le vivant, et minimise les sources d'insécurité qui sont croissantes aujourd'hui, sources d'insécurité sanitaire, sources d'insécurité alimentaire, parce que les rendements vont fortement baisser, justement parce que le vivant ne peut pas s'adapter à ces fractions de degrés supplémentaires. Donc en fait, c'est une illusion, et c'est en fait pour retarder l'action. On est toujours dans les mêmes stratégies.
Ce que je trouve intéressant dans le rapport de ces scientifiques, notamment, c'est que ils pointent du doigt des choses qui peuvent être assez contre-intuitives, comme par exemple la lutte contre la pollution de l'air et la disparition de la réduction de certains aérosols, notamment comme le dioxyde de soufre, et on apprend que ces particules-là, au fond, retenaient la chaleur. Et c'est très contre-intuitif, en fait, d'imaginer que parce qu'on les a enlevés, parce que c'était effectivement négatif, du coup, les températures augmente. Comment on fait quand on est assis à votre place, Christophe Cassou, pour expliquer aux gens, ne revenez pas à vos aérosols? Alors ça, les gens d'ailleurs, c'est les entreprises, ça va bien au-delà, mais enfin, de fait...
Il y a des enjeux de pédagogie.
Exactement. Hein,
qui sont très importants. Je pense qu'il ne faut pas uniquement raisonner climat. Raisonner climat, en fait, c'est se limiter c'est être dans l'aveuglement. Le changement climatique, c'est des enjeux généraux, des enjeux aussi de santé. Les aérosols, en particulier les particules soufrées, ont un impact considérable sur la santé. Les aérosols sont responsables de 40 000 morts par an en France. Donc on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de réduire ces émissions de gaz, ces émissions d'aérosols pour des raisons de santé publique. Et en fait, les bénéfices de les réduire sont beaucoup plus grands que la petite hausse de température qui est générée par ces aérosols.
Est-ce que c'est aussi, ce sera la dernière question, Christophe Cassou, est-ce que c'est aussi pour couper l'herbe sous le pied des climato-sceptiques ou autres, que là aussi, on lit très concrètement que le réchauffement 2024, par exemple, 1,52 degrés, donc on est au-dessus d'1,5, qui est dû aussi à des variables naturelles, donc on fait le ratio. Attention, variable humaine 1,36, le reste seulement pour El Niño, etc. Et j'ai l'impression que c'est l'une des premières fois qu'on nous fait ce ratio-là. Est-ce que c'est aussi parce qu'il faut, effectivement, vous avez désormais cette obligation de vous adresser à ceux qui ne vous croient pas d'emblée?
Tout à fait. Et sur une année, en fait, ça n'a pas de sens de faire ce ratio-là.
Ouais, ouais.
Et c'est ce qu'on explique bien. Il y a des phénomènes naturels, comme les phénomènes El Niño, qui vont doper, qui vont booster, qui vont amplifier l'influence humaine sur le climat. Il est probable que l'année prochaine ou cette année soit moins chaude que l'année 2024 parce que cet événement El Niño a disparu. Si on regarde sur des fenêtres de temps un petit peu plus longues, on voit que donc sur 10 ans, pour en fait moyenner, pour lisser...
Sur 10 ans, 1,24, et là on est à quasiment 100%.
Et donc là, même quand on considère les marges d'erreur, on est à 100%. Donc en fait, on peut dire aujourd'hui, de manière sans équivoque, que l'intégralité du réchauffement climatique est liée aux activités humaines. Mmh. Et on ne regarde pas que la température. On regarde surtout le niveau de la mer. Le niveau de la mer, il est très intéressant parce qu'il n'a pas ces petites fluctuations d'une année sur l'autre. Il a une grande inertie. Et il y a en fait, la hausse du niveau de la mer aujourd'hui est deux fois plus importante due à ce cumul de CO2 dans l'atmosphère.
Et quand bien même nous atteindrions d'ailleurs les 1,5 pour ce qui est du niveau de la mer, ne perdez pas espoir, Christophe Cassou, parce que du coup, nous non plus. Merci beaucoup.
Merci de votre relais.
Merci de votre passage chez nous. La suite, ce soir, c'est le reportage d'Un jour dans le monde. Ça se passe chez les Alaouites, en Syrie, toujours pris pour cible, un désordre qui menace la stabilité du pays. C'est ce que nous dira Manon Chapelain. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, il y a Sous les radars, Christelle Rebière.
Nous irons en Birmanie, où l'ancienne prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, a 80 ans aujourd'hui, en prison.
Le Monde à 18h50 et Virginie Pironon ce soir. Bonsoir Virginie.
Bonsoir, je vous parle de la guerre entre Israël et l'Iran qui ne fait pas vraiment les affaires de Vladimir Poutine.
Et la tech, la première, bien sûr, comme chaque jeudi. Bonsoir Stéphane Jourdain.
Bonsoir Fabienne, on parle du Mercato de l'IA, 100 millions de dollars pour débaucher un seul ingénieur. On va essayer de donner du sens à ce chiffre fou.
Allez, le tour de la planète commence à peine, les amis. Il passe par la playlist de France Inter et le choix de Djoubaka. C'est pour Dochi ce soir. Wait, vous êtes dans Un jour dans le monde. Ne changez rien.
Call login, clear your agenda. there waiting for you to cash on it. Life is just like a bike, it don't move unless you better than less about who is better and more about who blessing them. Softer than gelatin, peanuts than elephants. You dumb is a boss of Ross if you think it's irrelevant. My granny been popping Zanny since CBS met the nanny. My mammy Danny, she chipper than Annie. And I'm not talking to family, but I've been dreaming of fishing since I've been watching the Grammys. And I'm here to stay like the shit in your panties. I need some standing ovation since y'all can't seem to understand me. I might look fly in the matrix, I hope I'm sticking my landing. No need to bring fall back in August, September. You should just fall back in. Wait. Who wants to clear the fog and all the smog in your mirrors? Well, you could just fall back in. Wait. Delete your call log and clear your agenda. You should just eat what's on your.
Le reportage d'un jour dans le monde est en Syrie, ce soir sur une bande littorale qu'on appelle le Réduit Alaouite. Toujours le théâtre de violents combats, trois mois après les exactions qui ont fait des centaines de morts, en majorité des civils. Des gens assaillis de toutes parts. D'un côté, il y a les factions les plus radicales qui échappent au contrôle du président Ahmed al-Shara, s'attaquer à la minorité alaouite dont est issu le clan Assad. C'est une forme de revanche. De l'autre, il y a les loyalistes à l'ancien régime. Ils appellent à l'insurrection armée. Ils ciblent régulièrement les agents de la sécurité générale et les activistes. Une commission chargée d'enquêter sur les crimes du mois de mars doit rendre ses conclusions d'ici au début du mois de juillet. En attendant, la situation reste fragile et menace la stabilité du pays. Le reste, c'est Manon Chaplin qui raconte.
C'est dans une petite salle accolée à la mosquée que des dizaines de femmes se sont retrouvées, toutes habillées de noir, la mine grave, pour rendre hommage à Yasser, Kasser, Yamen, Talan et Malan, cinq hommes, tous agriculteurs, tous alaouites, tués à la fin du mois dernier. La fille de Yasser, 21 ans, essaie d'expliquer. Elle n'y arrive pas, nous glisse son amie. Alors, elle nous renvoie à l'extérieur où une partie du village s'est réunie pour écouter le récit du seul survivant de l'attaque. Il a souhaité rester anonyme.
Deux hommes sont arrivés sur une moto. Il y en avait un qui était complètement vêtu de noir. L'autre portait des vêtements militaires. Les deux avaient une cagoule enfoncée sur la tête. On ne voyait que leurs yeux. Ils étaient armés, l'un d'une kalachnikov, l'autre d'un pistolet.
Il poursuit, le motard à la kalachnikov a ensuite exigé de prendre leur téléphone avant de tirer sur les six hommes.
On est tous tombés par terre. J'ai senti que j'avais du sang qui coulait dans mon dos. J'ai senti que j'étais blessé, mais je n'ai pas bougé. J'avais peur qu'ils me tirent dessus à nouveau. Je suis resté comme ça, à attendre. Je suis le seul survivant de ce massacre.
Il montre son œil gauche, encore cerné d'un hématome bleu, fait une pause, puis dit
« Regardez ces visages autour de vous. »
Ce que l'on demande aux autorités syriennes, poursuit-il,
c'est d'exécuter ces deux tueurs sur la place du village, devant tout le monde. On veut que ces deux personnes soient exécutées. Si ces hommes ont toujours des armes, nous aussi, nous devons les reprendre. Ces hommes veulent simplement récupérer nos terres pour y mettre leurs animaux. Ils disent que ce sont leurs terres et aujourd'hui ils se sentent tout permis car ils sont sunnites et nous alaouites.
Comme souvent lors de ces massacres, il y a donc la question de la confession. Il y a aussi les conflits fonciers, conséquence de l'absence de titre de propriété. Et puis...
Avant, on était tous dans l'armée. On a combattu pour Bachar al-Assad, ce chien, pour qu'il garde le pouvoir. On a perdu nos frères et nos enfants juste pour protéger ses chaussures.
Il y a surtout la vengeance, les représailles contre ceux qui ont été liés de près ou de loin aux crimes de la dictature. En mars, c'est une tentative de coup d'État de loyalistes à l'ancien régime qui a déclenché le cycle de violence contre la communauté alaouite. Des attaques devenue trop fréquente, explique Armad, 4 mois qu'il est déployé sur un checkpoint à l'entrée du village d'origine du clan Assad.
On a un service de renseignement qui travaille activement pour les rechercher et poursuivre leurs mouvements. On fouille régulièrement la région et on trouve tous les 2 ou 3 jours une cache d'armes. Car oui, ils ont beaucoup d'armes.
Ahmad poursuit, 40 hommes de la sécurité générale se sont fait tuer ici en 6 mois. Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, ils sont ainsi des centaines à se préparer à une contre-insurrection, près de la côte, à se cacher dans les montagnes, les fermes et les maisons. Au loin, des tirs résonnent en écho dans les montagnes alaouites. Ahmad attrape sa kalachnikov, puis jette des regards inquiets autour de lui.
Voilà, c'est eux. Ce sont les loyalistes au clan Assad. Ils ciblent les civils, les points de contrôle.
Mais aussi les activistes. Nada et Walid sont journalistes alaouites, opposants de longue date au régime de Bachar al-Assad et victimes de 10 tentatives d'assassinat.
Ils ont essayé de me tuer ici, il y a un mois. Ils ont tiré en direction de mon bureau, je me suis mise à terre, puis la sécurité générale est arrivée. Ils ont également filmé ma maison, mis mon adresse en ligne. Depuis, j'ai peur.
Soudain, de l'autre côté du mur de leur bureau, une explosion, puis des tirs.
Éteins la lumière.
Le visage de Nada se crispe, devient livide. Cache-toi, glisse-t-elle à Walid. Peut-être viennent-ils à nouveau nous chercher.
Manon Chaplin pour le reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Christelle Rebière. Et nous allons d'abord en Birmanie, Christelle, où un anniversaire ne sera pas célébré, celui d'Aung San Suu Kyi.
On vient d'entendre l'un de ses deux fils réfugiés en Angleterre. Il a appelé à récolter 80 000 messages vidéo de soutien pour les 80 ans de sa mère. Un soutien symbolique dont elle n'aura sans doute jamais connaissance. L'ancienne chef du gouvernement purge une peine de 27 ans de prison. Pas de célébration publique, évidemment, en Birmanie. La junte au pouvoir a juré sa perte et ses anciens partisans ont pris le maquis pour combattre les généraux par les armes. On n'est plus dans la lutte non-violente qui lui avait valu le prix Nobel de la paix en 91. À peine quelques manifestants masqués ont osé lâcher des tracts avec des messages comme « Liberté de vivre sans peur ». L'image d'icône d'Aung San Suu Kyi avait été sérieusement écornée pour sa passivité face à la persécution des musulmans Rohingyas. Elle avait dû se défendre de génocide. Aujourd'hui, on ne sait pas où elle se trouve, dans quelles conditions elle vit et quel est son état de santé. Son fils n'a pas eu de nouvelles depuis 2 ans.
Et nous sommes en Argentine pour le verdict du procès qui a fait la une depuis 6 mois.
Brenda Cecilia Aguero, une infirmière de 27 ans, vient d'être condamnée à perpétuité pour avoir tué 5 bébés et tenté d'en assassiner 8 autres. Elle travaillait alors dans un hôpital de la province de Cordoba, à 600 km au nord-ouest de Buenos Aires. Elle injectait du potassium et de l'insuline à des bébés qui étaient tous nés en bonne santé, des doses qu'elle volait sur des chariots médicaux. Les rescapés n'ont dû leur survie qu'à une intervention médicale d'urgence. Ce procès fleuve a aussi été celui d'un ancien ministre de la Santé, de l'ex-directeur de l'hôpital, poursuivi eux pour dissimulation et manquement à leurs devoirs. L'infirmière a nié durant son procès, affirmant qu'il n'y avait pas de preuves et qu'elle n'était pas une tueuse en série. Elle n'a pas convaincu les juges et elle ne pourra bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avoir purgé 35 ans de prison. Elle sortira au mieux donc à l'âge de 62 ans.
Et puis nous sommes à Budapest en Hongrie, à la Gay Pride.
Alors ça, c'était l'ambiance de l'année dernière, mais cette année, la marche des fiertés est interdite par le pouvoir de Viktor Orban. Le Premier ministre d'extrême droite a fait passer une loi au Parlement cet hiver qui interdit les rassemblements qui soutiennent les droits des personnes LGBTQI+. Au nom de la famille et de la préservation des enfants, la marche est censée être organisée à l'abri de leurs jeunes regards. À 10 mois des prochaines élections, Orban évidemment cherche à ressouder son électorat traditionnel. Des milliers de personnes ont manifesté leur désaccord ces derniers jours. Le maire de Budapest a trouvé la faille. Cette manifestation sera un événement municipal, explique-t-il. Il échappe donc à toute autorisation nationale, mais la police l'interdit quand même. Alors on est en plein bras de fer. Une chose est sûre, si elle a bien lieu le 28 juin, il y aura encore plus de monde que prévu, puisque 70 eurodéputés ont décidé de se joindre hier, symboliquement, à cette marche des fiertés.
Et c'est courageux. Merci beaucoup, Christelle. Vous partez en passant par l'Ukraine, tiens, avec un groupe de 7 femmes. Le groupe est né à Kiev en 2012. Elle s'appelle les Duck Daughters. Elle joue de multiples instruments. Elle chante dans différentes langues et dialectes ukrainiens. Et le morceau s'appelle Vals Alici.
Терном, мерном, терном.
Duck Daughters, elles sont ukrainiennes et leur morceau s'appelle Vals Alici. Le Monde à 18h49, c'est Virginie Pironon ce soir.
How dare you?
World has changed.
Fabienne Saint-Ès. Le 18
Virginie, alors que les affrontements entre Israël et l'Iran se poursuivent et que le président américain Donald Trump laisse planer le doute sur une possible intervention militaire aux côtés de l'État hébreu, vous nous expliquez en quoi cette situation au Moyen-Orient peut fragiliser Vladimir Poutine et sa guerre en Ukraine.
Oui, alors que le bon point pour le chef du Kremlin, toujours très doué pour exploiter les crises, c'est que l'attention médiatique des grands dirigeants de ce monde, en particulier Donald Trump, s'est déplacée au Moyen-Orient. Les autorités ukrainiennes le déplorent, le conflit sur leur sol est passé au second plan. Et Vladimir Poutine n'a pas perdu de temps. Les attaques de l'armée russe en Ukraine se sont encore intensifiées ces derniers jours. La capitale Kiev a subi dans la nuit de lundi à mardi une des attaques les plus meurtrières depuis février 2022. 28 morts selon un dernier bilan. L'armée russe progresse, que ce soit au nord-ouest de l'Ukraine, dans la région de Soumy ou à l'est, dans le Donbass.
Mais donc ça va plutôt pas mal, si j'ose dire, pour le président russe qui, en plus, grâce à cette crise en Iran, tente de se poser en médiateur.
Oui, il a tout intérêt à le faire. D'ailleurs, Vladimir Poutine a fait offre de service dès les premières frappes israéliennes. Ce matin, à l'issue d'un coup de téléphone avec son homologue chinois, Xi Jinping, il a à nouveau appelé à un règlement du conflit, je cite, « par la voie politique et diplomatique ». Ce soir, il met en garde Washington contre toute intervention militaire. Alors historiquement, la Russie entretient de bonnes relations avec Israël, où vit une importante communauté russophone. Mais Moscou s'est également rapproché ces dernières années de Téhéran. Placé sous sanctions occidentales, les deux pays ont signé en janvier dernier un traité de partenariat stratégique avec un volet de coopération militaire, mais sans pacte de défense mutuelle. Et Vladimir Poutine reste prudent. Pas question que la Russie s'implique dans le conflit. Il faut dire que Donald Trump l'a sévèrement tensé. « Fais-moi une faveur », a-t-il écrit à l'encontre du maître du Kremlin. « Fais le médiateur pour toi-même ». Autrement dit, occupe-toi déjà de la situation en Ukraine.
L'Ukraine qui, justement, Virginie, veut voir du positif dans cette situation.
Oui, car dans ses négociations avec les États-Unis, Vladimir Poutine risque désormais de ne plus pouvoir utiliser ce levier du nucléaire iranien. Jusqu'à présent, il pouvait proposer une sorte de deal au chef de la Maison-Blanche. « Je t'aide avec le régime des Mollahs. En échange, tu peux m'aider à garder les territoires occupés en Ukraine. » Sans oublier que Téhéran est devenu ces dernières années un des principaux fournisseurs d'armes à Moscou. Or, en 7 jours de conflit, Israël a porté un sérieux coup au complexe d'armement en Iran. Des installations de production de missiles balistiques à Shiraz ont notamment été visées, ainsi qu'une usine de production de drones Shahed à Ispahan. Enfin, parmi les hauts gradés de l'armée iranienne qui ont trouvé la mort ces derniers jours, 2 personnes particulièrement liées à la coopération militaire avec Moscou. C'est le cas notamment du commandant de l'armée de l'air iranienne, Amir Ali Hajizadeh, qui avait personnellement supervisé le transfert de drones Shahed à la Russie, ou encore d'Ali Shamrani, haut conseiller du guide suprême, responsable de la coopération militaire avec le Kremlin. Selon certains experts ukrainiens, il sera difficile pour la Russie, dans ces circonstances, de retrouver rapidement un interlocuteur de confiance, ainsi que de rétablir des contacts.
Merci beaucoup Virginie Pironon. Le jeudi, Stéphane Jourdain explore le monde digital. Chronique sur l'IA garantie sans IA.
France Inter, le 18 juin.
Stéphane, la maison mère de Facebook, Meta, a proposé 100 millions de dollars à certains des ingénieurs d'OpenAI pour les débaucher. C'est ce qu'a révélé cette semaine Sam Altman. Et vous avez cherché à comprendre ce qui pouvait bien pousser Meta à mettre autant d'argent sur la table.
Et oui, 100 millions pour un ingénieur, le mercato de l'IA, décidément, c'est beaucoup plus puissant que le mercato de l'info. Écoutez Sam Altman.
Enfin, allez savoir.
Oui, on n'a pas tout encore, mais enfin... Écoutez Sam Altman interviewé par son frère, puisque ça marche comme ça maintenant dans la Silicon Valley, on parle à la famille.
Ils ont commencé à faire d'énormes propositions à plein de gens de notre équipe avec des primes à la signature de 100 millions de dollars, même plus que ça en rémunération sur un an.
Dingue.
C'est complètement fou. Et tu sais, je suis vraiment fier que personne n'ait pris cette offre, en tout cas jusqu'à maintenant.
Pouce en bas pour Meta, donc OpenAI reste en pole position, c'est le message de Sam Altman.
Mais ce montant record, Stéphane, qu'est-ce que ça dit de la Silicon Valley ?
Que la fuite en avant n'est pas terminée, on explose tous les plafonds, explique Stéphane Distinguin, spécialiste innovation numérique chez EY Faber-Novel.
100 millions pour recruter quelqu'un, c'est des salaires de stars du football. Là encore, c'est une nouvelle étape franchie avec l'intelligence artificielle qui est encore beaucoup plus que de la folie de ce qu'on connaît de la Silicon Valley qui est prêt à certains moments à dépenser des millions. C'était des millions jusqu'à maintenant, parfois peut-être des dizaines de millions, mais certainement pas des centaines de millions pour pouvoir embaucher les meilleurs collaborateurs.
Des stars du foot, Arthur Mensch, fondateur de Mistral AI, nous parlait, lui, de la guerre des talents et de stratégie de recrutement à la FC Barcelone pour éviter qu'il ne finissent chez les concurrents. Pour lui, il n'y a que quelques centaines d'ingénieurs dans le monde capables d'entraîner les modèles d'IA les plus perfectionnés, ce qui explique cette flambée des prix.
Et alors, s'il y a une bulle de l'IA, donc elle continue de grossir.
Oui, OpenAI perd en ce moment 1 milliard de dollars par mois, mais ça n'empêche pas Sam Altman de faire un chèque de 6,5 milliards de dollars pour faire venir une figure de la Silicon Valley, Johnny Ive, designer de l'iPhone, son entreprise, a été rachetée par OpenAI dans l'espoir de développer un appareil, sans doute sans écran, pour avoir ChatGPT dans la poche. Côté Meta, Mark Zuckerberg vient de débourser 14 milliards pour acheter la moitié de Scale AI, société spécialisée dans la mise en forme des data pour l'IA. Une paille pour Meta, 164 milliards de dollars de bénéfices en 2024.
Mais alors pourquoi Meta mobilise autant d'argent sur l'IA en ce moment ?
Alors deux raisons. La première, c'est que Meta est un peu considéré comme un second couteau dans la course à l'IA et ça commence à se voir. L'entreprise a perdu la bataille de l'usage, explique Stéphane Distinguin.
L'urgence, c'est les App Store et la consommation aujourd'hui de ces services d'intelligence artificielle, dans lesquels on voit que OpenAI et ChatGPT ont pris une avance qui est énorme par rapport à tous les concurrents. Dans l'App Store aujourd'hui, ça fait plus de 18 mois que ChatGPT est numéro 1, là où aucun de ses concurrents n'arrive dans les 20, 30 et peut-être même 50 premiers. Zuckerberg veut montrer qu'il met le paquet pour pouvoir recoller à l'échappée claire d'OpenAI.
Aux États-Unis, ChatGPT, c'est 75% des requêtes IA, très loin, très très loin devant ses concurrents directs, Google ou Anthropic. À San Francisco d'ailleurs, quand vous vous baladez dans la rue, vous pouvez voir des pubs pour toutes ces IA. Il y a d'ailleurs eu une pub, ça a coûté 14 millions de dollars, pour ChatGPT pendant le dernier Super Bowl.
Et alors la deuxième raison ?
La deuxième raison, c'est Sam Altman qui en parle lui-même. Pourquoi les ingénieurs dragués par Meta sont-ils tous restés au bercail ?
Je pense que les gens regardent les deux options et se disent « Bon, en fait, OpenAI a vraiment une bien meilleure chance d'arriver à la super intelligence. Et si on y arrive, et dans notre équipe de recherche, beaucoup croient qu'on va y arriver, alors tout le monde va s'y retrouver financièrement. Bref, la mission d'abord, les récompenses ensuite. »
La super intelligence artificielle, ce stade où l'IA surpasse les capacités intellectuelles humaines dans pratiquement tous les domaines. Bref, c'est le moment où vous allez préférer vous tourner vers une IA plutôt que vers un humain pour régler un problème. C'est le Graal que visent tous les géants de la tech. Et on va y arriver en plusieurs étapes. Première étape, l'IA remplace tous les développeurs. C'est Dario Amodei, que vous connaissez bien, PDG d'Anthropic, grand rival de ChatGPT, qui le dit à un think tank en mars dernier.
Oui, je suis un peu inquiet sur le front de l'emploi. Si on prend par exemple le secteur des développeurs, ceux qui codent, c'est là que l'IA progresse le plus vite. Eh bien, dans 3-6 mois, les IA vont écrire 90% du code. Et d'ici un an, on sera à 100% du code écrit par de l'IA.
D'ici un an, plus besoin d'humains pour fabriquer un site internet, une app ou un algorithme. L'IA fera tout. C'est Eric Schmidt, ancien patron de Google, qui nous raconte la suite.
Qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans ? On va entrer dans un monde où les IA s'auto-améliorent toutes seules et où elles commencent à planifier des tâches de façon autonome. Bref, elles n'ont plus besoin d'écouter les humains. C'est ce qu'on appelle la super-intelligence artificielle. Ce stade où l'IA dépasse l'intelligence humaine dans tous les champs de la connaissance. Et ça, c'est à l'horizon 5 ou 6 ans. Cette trajectoire, cette réalité, notre société a du mal à l'appréhender et parce qu'il n'y a pas de mots pour ce qui arrive. Qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Ça va aller trop vite pour nos esprits humains, notre société, nos démocraties, nos lois. Les gens ne se représentent pas la portée de la révolution qui arrive avec l'irruption d'une telle intelligence disponible gratuitement.
Ce que décrit Eric Schmidt ici, c'est le San Francisco consensus.
Le San Francisco consensus, c'est quoi ?
C'est votre pire cauchemar, Fabienne. Okay. L'idée que tous les manias de la Silicon Valley, alors qu'ils ne sont d'accord sur rien, sont tous d'accord sur au moins un point, l'avènement dans quelques années de cette super intelligence artificielle qui va surpasser l'humain. Et l'objectif des géants de la tech, c'est d'être le premier à l'atteindre, quel que soit le prix.
Bah dites donc. Moi j'ai envie de dire, tu feras boulangerie mon fils, comme ça, c'est pas l'IA qui va faire des pains au chocolat.
Il va gagner un peu de temps.
Allez, merci Stéphane, la chronique qui vaut donc 100 millions, payez beaucoup moins cher, hein, je vous le rassure tout de suite. À jeudi prochain, le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly. Et juste après le téléphone sonne, bonsoir Philippe Lefebvre.
Bonsoir à tous.
Ce soir, un an après les JO, qu'est-ce qui reste de la joie des Jeux ?
Fabienne, il y a un an, nous étions sur la scène, émission spéciale avec Thomas Joly, le metteur en scène préparait la cérémonie d'ouverture, il n'avait dévoilé aucun secret. Il ne savait pas encore qu'il allait pleuvoir des sauts sur son spectacle, mais il nous parlait de la joie à venir.
cette idée de grand collectif et de joie d'être ensemble. Moi, je crois que c'est ça que servent les Jeux Olympiques, c'est de se fédérer, de se synchroniser, de se regarder les uns les autres, les unes les autres, tous les 4 ans. Ça ne peut que nous faire du bien.
Ludivine, j'ai été infirmière au village olympique et paralympique. C'était un moment incroyable. Olivier, merci pour votre émission, toujours au top. De colère ou de joie, est-ce que les grands rassemblements humains ne sont pas tout simplement l'occasion de trouver le plaisir de se retrouver autour d'un point commun? Chose pas si facile finalement.
01 45 24 7000, c'est ça votre point commun, les amis. C'est le même chemin pour vos pouces par WhatsApp.